Voilà. Bon, un peu de respiration après ce témoignage extrêmement dense. Juste un commentaire pour essayer de saisir la pointe de ce témoignage et ce qu'il nous donne à penser. Je crois que d'abord, à travers ce que Jean-Pierre Vernant raconte de la mythologie grecque, avec l'histoire d'Aurore, qui s'appelait aussi Éos, et de Titone, il situe bien ce qu'était le rêve de l'humanité depuis toujours. C'est le rêve d'une longue vie. Et à travers la culture grecque, comme à travers d'autres cultures, on constate bien que dans cette demande-là d'une longue vie, il y avait une ambiguïté. Puisque si un être humain est conscient de sa condition humaine, il sait qu'elle doit franchir les étapes de la naissance, de la croissance, de l'âge adulte, de la vieillesse et de la mort, alors qu'en fait, le rêve de longévité de l'être humain a toujours été un rêve d'une jeunesse qui n'en finit pas, et que la vieillesse en elle-même n'a jamais été un rêve, sauf à l'habiller des atours de la jeunesse. On le voit dans toutes les civilisations, et là, dans cet extrait de la mythologie grecque, c'est particulièrement frappant, puisque le jeune berger qui s'appelle Titone, Tithon, dont Aurore est tombée amoureuse, ce jeune berger, elle demande à Zeus, c'est-à-dire à Jupiter chez les Romains, hein. Tout ça en grec, c'est Zeus, elle demande à Zeus de lui accorder l'éternité. Mais l'horreur vient de ce que Aurore a oublié de demander en même temps l'éternité de la jeunesse. Si bien qu'au fond, Éos va être, pardon, si bien qu'alors Titone va être une caricature de la vie humaine. Et dans cette caricature-là, la mythologie nous fait sentir les enjeux. Les enjeux qui font que ce qui est décrit chez Titone, c'est un Alzheimer. Regardons ce qui se passe. Il vieillit, il se dessèche, il maigrit de plus en plus. Et puis, au bout du bout, il ne dit plus rien. Il ne communique plus. Donc il est semblable à une cigale avec ce bruit répétitif de la cigale pour toute communication. Et il y reviendra après, du coup, le système de reliance qui caractérise la vie humaine est rompu par ce vieillissement caricatural. Et effectivement, ce que la vie moderne nous a appris, c'est que le rêve de longévité que nous avons maintenant à portée de nos mains, et en tout cas la durée de la vie humaine s'allonge régulièrement tous les ans, s'est accompagnée du cauchemar que constitue la maladie d'Alzheimer. Cauchemar qui avait été pressenti déjà depuis que l'homme est l'homme. Et on voit bien la profondeur de la réflexion de la pensée grecque quand, à côté de d'Éos et de Titone, on met Ulysse. Car quand Ulysse revenait d'Ithaque et a échoué sur l'îlot où se trouvait la déesse Calypso, la déesse Calypso lui a dit « Si tu restes avec moi, tu auras une vie éternelle et une jeunesse éternelle. » Et très curieusement, Ulysse dit non. Et Jean-Pierre Vernant l'explique bien, parce que s'il dit oui, il se raye de l'humanité, il se raye de la condition humaine. Il a pour tout horizon circulaire, pour toute l'éternité, les jours qui se ressemblent aux jours avec Calypso. Et cette vie circulaire-là n'est pas la vie linéaire qui caractérise la vie humaine et le déploiement d'une histoire humaine. Et on voit bien, au fond, combien nous sommes coincés par notre humanité. Nous sommes coincés parce que nous sommes condamnés à mourir, parce que c'est ce qui explique et donne sens à la vie. Mais que, entre ce chemin de la vie et de la mort, c'est l'Alzheimer qui constitue une préfiguration de la mort. Cette mort intérieure, nous a-t-il dit. Et on va s'en expliquer parce que nous allons voir sa pensée nuancée, mais c'est la crainte initiale, cette mort intérieure. Et dans d'autres parties d'une intervention qui là n'a été donnée, puisque c'est plusieurs heures qui ont été résumées en une vingtaine de minutes. Jean-Pierre Vernant montre bien ce qui est offert à l'être humain dans le courant de sa vie terrestre. Ce qui est offert à l'être humain dans le courant de sa vie terrestre, c'est la mort jeune ou le risque du vieillissement. Et il met deux personnages extraordinaires face à face. Il met Achille et il met Ulysse. Et c'est très beau, c'est très profond. Achille, lui, ne rêvait pas d'un foyer. Il rêvait d'une vie de gloire, d'une vie héroïque. Et Achille est mort en pleine jeunesse. Et au fond, c'était un spectacle extraordinaire que ce jeune mort, parce que vénéré, et parce que aussi l'image que l'humanité en a gardée, c'est l'image, une image juvénile qui restera éternelle. Ulysse, au contraire, a pris un autre risque. Il est revenu d'Ithaque. Il a voulu échapper à Calypso, il a échappé aux sirènes, il a échappé à bien des aventures, et il voulait retrouver Pénélope. Pénélope, qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans, il l'avait donc quittée à 20 ans, il a retrouvé une femme de 40 ans, et ils ont vécu des amours extraordinaires à un âge qui était à l'époque considéré comme très tardif, et Ulysse a accepté le risque du vieillissement. Et donc on voit comment le choix que nous avons reste éternel, soit la mort jeune, soit le vieillissement. Oui, mais Ulysse a échappé à la maladie d'Alzheimer. Et c'est alors que Jean-Pierre Vernant introduit la maladie d'Alzheimer en disant d'abord que c'est la mort intérieure avant la mort. C'est très dur. Et vous verrez qu'il regrettera un peu, dans la suite de son discours, le caractère lapidaire de cette assertion initiale. Mais au début, il veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer quoi ? Il veut nous montrer que ce qui caractérise l'être humain, c'est la relation à l'autre. Car l'être humain solitaire ne s'imagine pas. Et cette relation à l'autre, il l'appelle très joliment le chemin d'intériorité. La relation à l'autre, dans une famille, dans un couple, entre amis, c'est cette manière que l'un a de rejoindre l'autre dans ce qu'il a de plus profond, en tout cas de ce qu'il souhaite livrer de lui-même. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la reliance. La reliance qui est une donnée fondamentale de la condition humaine. Et au fond, quand ce système de reliance est altéré, c'est déjà comme une préfiguration de la mort. C'est pour ça qu'il dit que c'est comme une mort intérieure, c'est une mort préfigurée, puisque l'abolition de la relation à l'autre brise ce lien entre soi et autrui qui est fondateur de l'existence humaine. Et il ajoute, ils sont là et ce ne sont plus eux. Cette phrase est elle aussi importante parce que la fracture de ce système qui nous relie à l'autre, de ce chemin d'intériorité, cette fracture de ce chemin d'intériorité s'accompagne d'une défiguration, reconfiguration du malade. Je ne le reconnais plus, il va falloir que je m'habitue à quelqu'un qui change, qui est nouveau, qui n'est pas la personne avec qui je vivais, qui n'est pas mon père que j'avais connu avec son caractère, qui n'est pas ma mère, qui n'est pas ma belle-mère, qui n'est pas... Et c'est donc effectivement ce sentiment d'étrangeté et de rupture qui simule la mort. Mais on voit que très rapidement ensuite, Jean-Pierre Vernant appelle à une autre exigence, plutôt que qu'on peut interpréter comme une exigence, mais que lui nous donne de manière paradoxale, après sa première affirmation comme une évidence, c'est la relation avec sa femme. Puisque ce qu'il va nous dire, c'est qu'effectivement, sa femme avait considérablement changé, etc., mais il gardait une conviction profonde, elle me reconnaissait. Et on voit là, effectivement, comment le chemin d'intériorité qui passe par la raison doit toujours être doublé par un chemin d'intériorité qui passe par le cœur, qui passe par l'indicible, qui passe par une conviction qu'il énonce, lui, homme de culture, homme de science littéraire, sans preuve, comme témoignage fragile, et d'autant plus convaincant qu'il est fragile, et qui est de dire, je n'ai aucune preuve, mais dans le tréfonds de je ne sais quelle couche, vous avez vu tout ce qu'il a dit, cette biologie profonde, elle me reconnaissait. Alors, ceci, bien sûr, nous met en face d'une autre évidence qui est terrible quand on essaie de la travailler dans la relation bien portant Alzheimer. C'est la gigantesque dissymétrie de la relation humaine. C'est une relation humaine qui se déséquilibre de manière considérable, puisqu'il y a d'un côté le bien portant, les bien portants, et il y a de l'autre côté le malade, le proche, naufragé, dont on suppute qu'il garde au fond de lui quelque chose de lui-même. Et cette dissymétrie est telle que Jean-Pierre Vernant l'appelle cette déchirure. Oui, évidemment, c'est quand une relation est trop dissymétrique, elle se déchire. Et une déchirure, c'est une blessure. Et effectivement, il n'aurait pas été blessé par la vie comme il a été cet homme maintenant âgé, qu'il ne se serait pas exprimé comme il l'a fait. Mais du coup, il nous introduit sur un autre élément qui, en quelque sorte, transforme cette constatation en devoir. La relation est dissymétrique, le chemin d'intériorité est brisé. J'ai néanmoins à avoir cette conviction, enfin je la sens, il faut la laisser palpiter en nous. C'est pas facile dans des vies quotidiennes, parfois très dures, que de laisser palpiter cette évidence d'amour qui transperce comme ça le quotidien souvent difficile d'une maladie. Et il le transforme en devoir puisque il dit oui, ma femme, je m'en suis occupé, il valide ce qu'il a fait avec les moyens qui étaient les siens et qu'il ne cache pas pour pouvoir s'en occuper dans d'excellentes conditions matérielles. Et ce sur quoi il met l'accent, c'est le sentiment d'une dette. Ce point-là est extrêmement important parce qu'il a été, il n'est pas spécifiquement un sentiment grec, il a été beaucoup travaillé par de nombreux philosophes et notamment sur le plan contemporain par Emmanuel Lévinas qui nous a dit avec force ce que Jean-Pierre Vernant nous annonce là, c'est que nous sommes toujours débiteurs à l'égard de l'autre. Pourquoi sommes-nous débiteurs à l'égard de l'autre? C'est que si l'on part du postulat que la vie humaine ne peut pas exister dans la solitude, c'est impossible. Cela veut donc dire que ce sont les autres qui conditionnent ma propre existence. Si je me regarde moi seul, je suis obligé de dire que je ne suis vivant et je ne peux subsister que parce que je suis entouré. On voit souvent le caractère ennuyeux, difficile, conflictuel. Mais l'humanité est ainsi faite, c'est que l'être humain ne peut pas vivre sans une société. Et donc, à cet égard, nous sommes obligatoirement débiteurs et qu'au fond, une dette réclame une prise de conscience de cette dette. Et la prise de conscience de cette dette, c'est ce qu'on peut rendre pour atténuer cette dette, pour effacer cette dette. Il y a de la part de cet homme, dont vous avez vu qu'il est par ailleurs au moins agnostique, un très beau témoignage humain au sens le plus simple du terme. C'est ce sentiment d'endettement mutuel. Paul Ricoeur en parlera lui aussi beaucoup en disant que un affinement de nos capacités à vivre harmonieusement ne peut pas ne pas s'accompagner d'un sentiment de dette infinie. Faisons le film de notre vie et essayons au moins de voir tout ce que nous devons à d'autres depuis toujours. Et qu'au fond, cette dette, elle doit être acquittée. Et qu'au fond, le travail de proximité qui est fait, s'inscrit dans le sens de cet acquittement. Et il emploie ensuite un mot tout simple pour dire « si je ne le faisais pas », vous en souvenez, il dit « je serais moche ». Voilà. Donc c'est la manière la plus simple de bien sentir que il érige ceci au niveau du devoir. Je crois aussi qu'il y a dans ce témoignage d'autres intuitions dont je ne connais pas la profondeur exacte, puisqu'il n'a pas publié sur ce sujet. Il parle des différentes formes de la maladie. C'est bien que quelqu'un qui n'est pas du monde scientifique ait perçu que les malades ne se ressemblent pas et que quand on parle de maladie d'Alzheimer, il faut aussi penser à tous ces malades qui ressemblent et qui sont eux aussi victimes d'un vieillissement pathologique qui ne correspond pas à la vraie maladie d'Alzheimer. Et je crois qu'il faut c'est important d'en avoir conscience, puisque la recherche doit concerner l'ensemble des perturbations du vieillissement. Nous voyons aussi une autre réflexion intéressante sur l'information. Vous voyez la manière humble dont il dit qu'est-ce que savoir ? Il vaut mieux savoir, mais qu'est-ce qu'il faut exactement que je sache ? Il y a tellement de manières de savoir. Je suis assez heureux qu'il n'ait pas utilisé le terme d'annonce, vous savez, qui est si à la mode, qui est même un terme très officiel, et qui est un terme pour lequel je n'ai pas une affection sans borne, compte tenu que ce terme est un terme qu'on emploie qu'en France. Annoncer, c'est quelque chose qui fait, vous voyez, un peu solennel, avec un public, avec plusieurs intervenants, alors qu'en fait, il s'agit de parler, il s'agit de dire. Et je ne sais pas si l'annonce demande à être solennisée. En tout cas, quand on fait une recherche sur Google et qu'on met Alzheimer annonce, vous allez trouver l'annonce de la maladie, des annonces de congrès. Et si vous mettez Alzheimer announcement, eh bien là, vous n'aurez que des congrès et puis vous aurez une seule annonce, mais elle a disparu depuis quelques mois, parce que j'ai fait quelques vérifications. C'est l'annonce qu'a faite le président Reagan de sa maladie d'Alzheimer à l'Amérique. Mais là, c'était une vraie annonce, c'est ça l'annonce. Et pour trouver ce que nous cherchons, il faut mettre Alzheimer et tel, T-E-2-L, telling ou tout tel. Et avec ce mot simple qui veut dire parler, dire, eh bien, on tombe sur la communication. Et on voit que Jean-Pierre Vernant resitue l'annonce, qu'il n'appelle pas annonce, la communication, l'information, oui, sur le registre de l'humilité. Enfin, bien sûr, il appelle tout à fait en bout d'exposé à un pacte avec le vieillissement. Ce pacte avec le vieillissement, c'est ce qu'il appelle la sagesse. Et c'est vrai aussi que nous vivons dans une société qui, quelque apparence qu'elle ait, déteste le vieillissement. Même la publicité ne nous enseigne que ce qu'il faut faire apparemment pour ne pas vieillir, hein, pour que notre peau ne vieillisse pas, que nos cheveux ne tombent pas, etc. Enfin bon, c'est-à-dire essentiellement ce qu'il faut faire pour que les grandes compagnies multinationales fassent de gros bénéfices. Je comprends que c'est très heureux que L'Oréal, très belle boîte, hein, fasse de belles affaires. Je pense que c'est très très bien, mais ça n'a jamais rien changé au destin et qu'au fond, ce à quoi nous sommes appelés, c'est à accepter un vieillissement qu'on peut appeler un vieillissement réussi. Il ne faut pas confondre ce qui est l'inéluctable dans le vieillissement, mais qui n'est jamais déshonneur pour l'être humain, et ce qui, au contraire, doit un jour être combattu et vaincu, et qui sont les maladies du vieillissement. Mais ce n'est pas le vieillissement qui est une maladie. Ce qui est une maladie, ce sont les affections pathologiques qui se greffent sur le vieillissement, et dont la principale est la maladie d'Alzheimer. Donc voilà donc quelques pistes d'explication de texte sur ce discours, cet entretien de Jean-Pierre Vernant. Il y en aurait bien d'autres. Nous ne sommes pas là, vous voyez, dans le style habituel. Nous essayons de rejoindre l'Alzheimer par la vie, par ce qu'on appelle l'anthropologie, par une vision de l'homme et de la société. Et je pense que c'est une donnée qui est extrêmement importante. Au-delà de la recherche, au-delà des mesures sociales, etc., je crois que beaucoup de ce qui va arriver va dépendre du type de regard qui est jeté par notre société sur le vieillissement, sur la manière dont le sujet vieillissant est vécu dans la cité, comment il est vécu dans le pays, comment sont envisagées les mesures aptes à faire en sorte qu'il demeure existant. Et on a bien vu que l'existence se fonde dans la persistance d'une relation à l'autre. Et que souvent, l'appauvrissement relationnel est le spectre, le premier spectre du vieillissement juste avant la maladie d'Alzheimer. Voilà donc ces quelques notions. Maintenant, si vous avez quelques questions ou quelques impressions, c'est bien volontiers qu'on pourrait en parler.
Gilles, moi j'aurais une question effectivement sur la façon de maintenir cette relation compte tenu du grand déséquilibre qui existe entre le malade et celui qui ne l'est pas. Est-ce qu'il est plus facile pour le malade de garder un contact avec ceux qui l'entourent, avec qui il a des liens d'affection, ou avec ceux qui sont comme lui dans la même situation de maladie? Est-ce que l'écart qui existe là est moins grand? Donc, est-ce que c'est plus facile de maintenir une relation avec des gens qui sont aussi concernés par la maladie ou au contraire dans un milieu habituel entre malade et non malade? Comment peut-on...
Je crois que l'essentiel se situe plus au niveau du désir que de l'idéal. Alors, je veux dire par là que les relations entre malades, un peu sévères, n'existent pas réellement. Ils ne se connaissent pas, ils ne se reconnaissent pas. Et ce sont des situations parallèles. Je me souviens d'images qui, j'espère, disparaissent, c'est quand les maisons de retraite n'avaient pas réalisé que 80% de leurs pensionnaires avaient une maladie d'Alzheimer. Et il était même de bon ton qu'elles fussent dans des châteaux reconvertis, etc., c'est-à-dire, bon, strictement inadaptés. Et on peut se souvenir, enfin, de scènes tout à fait étranges qui était les malades assis en randonnion devant une télévision qu'il n'écoutait pas et dans un endroit extrêmement précis, mais qui était multipliable. Ils étaient entourés de tables pendant que derrière, une aide-soignante était occupée à repasser. Et voilà comment se passaient les longs après-midi de ces malades. Quand une agitation gagnait quelqu'un, il y avait une intervention, parce que souvent c'était une envie de faire pipi ou autre chose. Bon, mais les couches aussi protègent. Et puis parfois c'était une angoisse, etc. Voilà. Je crois que ces comportements-là ont montré que on ne peut pas compter sur la communication entre les malades. Je ne parle pas aux stades initiaux, bien sûr, hein, ou alors là, ça fonctionne très bien. Mais sitôt qu'il y a effectivement une dissymétrie importante, c'est-à-dire un enfoncement dans la maladie. Alors, effectivement, après la question est cette dissymétrie, il faut en avoir conscience, mais qui est le plus apte à l'atténuer, hein, ou à trouver le chemin d'intériorité du cœur. Voilà. On voit la réponse que donne Vernant, mais il s'en excuse presque. Il dit, moi, le choix que j'ai fait, c'est de la garder à la maison. Mais j'avoue que j'avais les moyens. Vous avez vu la maison, où il est, on voit bien. Bon. Et il dit, voilà. Mais je ne dis pas que d'autres solutions ne sont pas envisagées. En fait, si l'on transforme maintenant ce qu'a dit M. Vernant en technique relationnelle, en ce qu'on sait appliquer à la vie réelle, on peut partir des propositions suivantes. La première proposition, c'est que s'il y a un aidant principal, c'est-à-dire s'il y a un proche qui existe, il est naturellement porté vers cet investissement. Que finalement, le devoir qu'on a, c'est de lui dire « casse-cou, il ne faut pas vous épuiser, il ne faut pas tout casser ». Parce que parfois, à vouloir aller jusqu'au bout, sans en avoir tous les moyens, on peut ne pas avoir les moyens personnels, on est très inégaux, et ça, on est fait comme ça. Il faut savoir accepter ses limites. On ne peut pas avoir les moyens environnementaux, etc. Mais à vouloir aller au bout, on risque pire. C'est qu'à un moment, on soit obligé de casser brutalement. Et je crois que finalement, ce devoir, ce sentiment de dette qui légitime les efforts, il ne doit pas être conçu comme une obligation donnée de l'extérieur, parce qu'on voit qu'elle se retournerait contre le malade lui-même. Mais alors, ceci appelle une troisième réflexion qui est extrêmement importante. C'est que cette relation, parce qu'elle est dissymétrique, peut du coup être partagée. Et on arrive là à la mission qui est celle des personnels qui œuvrent dans les EHPAD, enfin bon, dans les maisons de retraite ou dans les services, ou dans ceux qui sont à l'hôpital de jour, etc. Enfin, on peut trouver, bon, à condition, me semble-t-il, que on donne sens à ces missions. C'est-à-dire qu'on sache bien que ces missions doivent avoir pour souci de rétablir un peu de la symétrie, de la dissymétrie. Et je suis assez convaincu que l'une des méthodes, c'est que se tresse un vrai réseau de solidarité entre les divers, je veux dire de communication entre les différents intervenants pour parler du malade. Vous voyez ? C'est pas on l'amène, il part où il est là, etc. Pour parler de lui, pour parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'on a cru percevoir. C'est là que se situe, me semble-t-il, le peu que l'on peut faire, mais qui est quand même le maximum aujourd'hui et qui vise à laisser l'autre inscrit dans une histoire et dans une aventure humaine. Sinon, il est parqué. Et il y a très peu de différence. La différence, elle est dans l'intention. Mais il faut qu'il y ait, me semble-t-il, un travail de groupe. À l'instar de ce qu'en médecine, on connaissait dans les groupes Balint. Voilà, je veux dire que, c'est-à-dire que les intervenants se rencontrent pour évoquer le malade et parler de lui, ça change tout. Il devient sujet. Vous comprenez ? Il devient sujet de préoccupation. On va, sur sa tête chavirée, dire qu'il a été content là, que là, il s'est mis en colère ici, que là, il s'est passé ça, que là... Et ainsi, on travaille, on peut travailler à une mission, j'allais dire, d'ajustement relationnel. Mais il faut réserver ce temps. Il faut retrouver ce temps-là. Qu'il ne soit pas, vous voyez... Je m'en occupe, si je veux, je m'en occuper, je le pose, je le reprends, je le pose, je vais le voir, oui, il a bien dormi, etc. Bon, et tout continue. Bon, il est très important de savoir ce que la dame ou le monsieur qui a fait la chambre, qui l'a changé, a dit avec lui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pu remarquer, que ça s'échange avec l'infirmier, l'infirmière, le médecin, la psychologue, l'ergothérapeute, le kiné s'y passe, vous voyez, c'est ça. Et évidemment, apparemment, évidemment, c'est humble, mais ça change tout dans la dimension de ce qui est donné. Et surtout, ça permettrait de laisser ce sentiment de dette vis-à-vis du proche, mais de déculpabiliser et de faire en sorte qu'effectivement, la prise en charge s'effectue chacun avec la capacité qui nous est donnée. Et dont on a un seul devoir, c'est d'aller jusqu'au bout, mais pas de le dépasser. Et c'est souvent ce sentiment de nos limites qui crée des catastrophes. Il y a un malade qui peut être tout à coup projeté en urgence dans le monde hospitalier, etc., parce qu'on aura voulu être des saints. Voilà. Or, la sainteté, il faut la réserver à quelques-uns. Mais si tout le monde veut être saint, ça ne va pas marcher, quoi. Il ne va pas y avoir de place, quoi. Donc, il vaut mieux... qu'on reste entre nous, quoi, voilà. Et après, bon, on sait.
Je ne connais rien à la question, je vous pose une question un peu au hasard. Que sait-on de la perception résiduelle d'un malade avancé et de ses capacités ?
Alors, il y a des travaux scientifiques énormes sur ce sujet. Et d'autant plus importants, enfin, ils sont si importants qu'il est très difficile d'être schématique. En tout cas, il faut d'abord récuser la caricature. Quelle est la caricature ? On disait classiquement en médecine que les malades sont anosognosiques. A, c'est privatif en grec, noso, c'est la maladie, et gnosie, je connais. Je ne connais pas ma maladie. Donc ces malades ne connaissent pas leur maladie. Et d'ailleurs même, quand quelqu'un est amené à la consultation par son mari ou par sa femme, l'inverse, pour des troubles à mémoire, des troubles du comportement, si c'est pas lui qui vient lui-même, on dit, ben voilà, méfiez-vous, c'est qu'il ne se rend pas compte. Il est venu là pour obéir à sa femme ou pour obéir à son mari ou à son compagnon. Il ne se rend pas compte. Alors, cette conception-là offre l'inconvénient d'avoir de ce qu'on appelle la conscience de soi, une vision, j'allais dire, orthopédique. Hein, orthopédique, ça veut dire c'est cassé ou c'est pas cassé. Et on dit la conscience de soi est cassée. Eh bien ça, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il y a de grandes étapes entre « je sais exactement la gravité de ce que j'ai » ou « je ne le sais pas tout à fait ». Regardez chez les personnes qui ont des addictions sévères. Elles n'ont pas non plus une conscience exacte de la gravité de leur comportement. Elles ne sont pas Alzheimer. Elles savent qu'elles se droguent, elles savent que c'est pas bien pour l'organisme, mais elles ne savent pas le retentissement exact, la gravité exacte de la maladie. Donc je veux dire que ça n'est pas réservé qu'à l'Alzheimer, cette mauvaise évaluation de l'intensité exacte des troubles. D'ailleurs, c'est très surprenant, consultation, parce que le malade se plaint de rien. Êtes-vous content de votre mémoire? Ah ben non, 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 elle n'est pas très, très bonne. Enfin, il faut dire qu'à mon âge, bon, on atténue. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une inconscience absolue. Bon. Ensuite, la conscience, ça n'est pas que la conscience de la maladie. C'est la conscience du sentiment qu'on a de la vie au moment. Je me sens plutôt, tout simplement, plutôt à peu près bien dans ma peau, plutôt bon. Les malades peuvent en parler de ça. Quand on les interroge sur leur morale, par exemple, nous, on avait fait un travail sur la conscience de soi et d'Alzheimer, et on s'était aperçu que même avec des performances apparemment basses, la vision qu'ils donnaient de leur morale coïncidait assez bien à ce que la vision extérieure pouvait donner cliniquement. S'ils disent qu'ils sont tristes, c'est vraiment qu'ils le sont. La conscience de leur corps. Ah oui, si on leur demande comment est leur corps, assis, debout, machin, et ça, ils le savent. La conscience morale. Est-ce que c'est bien de faire ceci? Est-ce que c'est mal? Assez surprenant. Hein, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des réponses qui sont acceptables. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a dans l'Alzheimer, sans doute, pas une évaluation exacte du degré de la maladie, mais on ne peut pas dire qu'il y a une inconscience ou qu'il y a une aperception, une non-perception de ce qui se passe. Alors, il y a une particularité dans l'Alzheimer avancé, c'est quand le trouble de la mémoire est vraiment massif, même s'il persiste d'autres choses, le fait qu'on leur dise et qu'ils oublient. Bon, ils nous disent, ils oublient. On dit, ils oublient. Alors, ceci nous renvoie à une autre réflexion. Quand un malade d'Alzheimer ressent de la douleur, est-ce qu'elle est acceptable sous prétexte qu'il va l'oublier? Autrement dit, je crois que la maladie d'Alzheimer, plus que tout autre, nous fait réviser complètement notre conception du temps. Si on souffre 3 secondes, est-ce qu'on ne souffre pas? Est-ce qu'on doit tolérer une douleur, même si apparemment le mal... Et d'autre part, même si la mémoire s'efface, quelles sont les traces internes que va laisser la douleur? Et puis, même dans la mémoire, et c'est le sentiment qu'avait Jean-Pierre Vernant vis-à-vis quand sa femme le reconnaissait, si le signal, c'est qu'elle devait reconnaître personne. Donc à la fois, elle devait être agnosique, par connaître les physionomies, et à la fois amnésique. Mais certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ce témoignage qui m'a beaucoup frappé et qui est d'autant plus fiable que c'est une infirmière de mon équipe qui me l'a rapporté, alors même que ça concernait sa mère, dont je veux dire... atteinte d'une maladie d'Alzheimer particulièrement sévère. Elle n'était pas reconnue par sa mère depuis à peu près 1 an, apparemment. Elle me disait, j'ai l'impression qu'elle ne me reconnaît pas. En tout cas, j'arrive, elle reste apparemment indifférente, elle ne m'appelle pas plus par mon prénom. Et parfois, elle me vouvoie. Bon, vous connaissez bien, enfin, ceux qui vivent ça connaissent ça. Et dit, vraiment, elle ne me reconnaît pas. Et un jour, elle va à la maison de retraite, elle ouvre la porte, elle tombe sur sa mère, enfin, la porte de sa chambre. Sa mère se lève, la regarde avec un sourire triste et lui dit, tu vois, je ne sais même plus qui je suis. Puis, me dit-elle, elle reste comme ça, interloquée. Je vais vers elle, je lui dis maman, je l'embrasse. Et 3 minutes après, me dit-elle, elle était repartie dans son verbiage. On comprend, vous voyez, que, évidemment, on peut lire ça en disant, après tout, c'est passager. Mais en même temps, on peut dire que l'être humain, il a comme ça des fulgurances. Et le malade d'Alzheimer, il a ces fulgurances-là. Et donc, qu'on ne peut pas les penser qu'ils sont totalement inconscients. Et que même au plus profond, il y a des salves comme ça. Et que le devoir relationnel, c'est de les guetter, c'est de les respecter. Donc, effectivement, la relation compte. Et je crois que, manifestement, cette rencontre entre cette infirmière et sa mère ce jour-là était une rencontre bénie. Je veux dire que c'est formidable que ça se passait à ce moment-là, qu'il y ait cette relation privilégiée d'un instant qui a été pathétique, mais qui en même temps est extrêmement instructive sur le questionnement que peut se poser quelqu'un sur ce qu'il est. C'est tout à fait sidérant. Et c'était donc à une malade très évoluée. Donc voilà, je crois qu'il faut être très prudent vis-à-vis des malades. Oui, bien sûr, ils ne se réalisent pas bien, mais attention à ce qu'ils peuvent réaliser. Voilà.
Et lorsqu'un malade ne peut plus communiquer et grabataire, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore, on va dire, du ressenti ?
Alors, si l'on raisonne sur la base des lésions de l'Alzheimer, hein, il y a une distinction qu'on doit faire entre ce qui est ressenti et ce qui est reconnu. Quand on se situe dans les études, j'allais dire, cérébrales les plus proches de la biologie, on est aujourd'hui tout à fait sidéré par l'importance des voix qui arrivent au cerveau et qui renseignent l'être humain sur son vécu intérieur. Une chose est de percevoir le vécu, une autre chose de l'interpréter. C'est vrai. Mais le vécu au niveau basique arrive dans des zones qui sont intactes pratiquement jusqu'au bout dans l'Alzheimer. Dans des zones du cerveau. Ce qui caractérise la maladie, c'est l'interprétation. Les malades Alzheimer ont marché longtemps, après ils deviennent grabataires, d'accord. La sensibilité persiste, et comme elle persiste sur le corps, elle persiste dans les organes. Et vous voyez, et là, je suis encore, je fais référence à la biologie parce qu'elle grandit l'homme à ce moment-là et elle explique ce que Freud, d'ailleurs, qui était neurologue, avait bien entrevu. Mais c'est que notre cerveau résume toute l'histoire de la vie. Nous avons un cerveau reptilien, un cerveau mammifère et un cerveau humain. Ils se superposent les trois comme ça. Et donc, effectivement, le ressenti au sens de, d'un vague bien-être indicible ou d'un malaise. Alors là, la réponse est oui. Après, au niveau, c'est pourquoi, etc. Ça, voilà. Donc, oui, il y a du ressenti. Enfin, le contact avec le malade, le fait qu'il n'est pas froid, le fait qu'il n'est pas trop chaud, le fait, ça compte. Parce que on est là dans du végétatif, vous comprenez. Et du végétatif, c'est très puissant, parce que c'est très archaïque. Et tout ce qui est en nous est très archaïque et très puissant, hein, comme la faim, hein, comme la soif. Enfin, on est là dans des domaines humains qui ont été travaillés. Hein. On a soif, on ne se jette pas sur n'importe quoi. On transforme ça en plaisir. On parle d'un vin, de sa robe, du parfum, de trucs, etc. Bon, on a travaillé tout ça, nous, les humains. De même, un repas, on ne se jette pas. Bon, on dit, ah tiens, le petit plat, le machin, la recette. Voilà. Mais à la base, bien sûr. Alors, tout ça se décape. Mais la base, elle est terriblement présente. Hein, terriblement présente. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous savez, à l'autre bout de l'humanité, quand on voit ce qui s'est passé dans les camps de concentration, et je pense au magnifique livre de Primo Levi, si c'est un homme, il décrit la sensation de faim au plus profond de la misère humaine. Et on voit comment cette faim devient une maladie, quoi, hein, et que ça ne peut pas quitter l'homme parce qu'on est dans la condition de survie la plus basique. Et là, on est très résistant. Vous voyez. Donc oui, oui, il y a du ressenti. Il n'y a pas de la connaissance. Bien sûr, ce n'est pas du même niveau. Mais ça compte. Voilà, hein, c'est ça. Ça compte.
Est-ce que pourrait nous apprendre une comparaison avec des maladies analogiquement, enfin pour un ignorant comme moi proche, comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques enfin, comparé justement à la maladie d'Alzheimer.
Oui, ben ça n'a rien à voir, parce que la maladie de Parkinson, c'est d'abord une maladie de la motricité. Et le cortex cérébral, la partie la plus noble du cerveau, est préservée très longtemps. Enfin, il y a des formes. Bon, mais c'est les noyaux gris centraux qui sont à la profondeur du cerveau. C'est un peu la direction assistée qui est malade du véhicule, quoi. Donc, c'est comme quand on conduit un camion qui n'aurait pas de direction assistée pour bouger. C'est très lent. Bon, on tremble, on est malhabile. Voilà. Donc, non, il n'y a pas d'analogie. La seule analogie, elle est aujourd'hui le problème général qui est un problème très important sur un plan scientifique, sur le plan de la recherche, qui est pourquoi des cellules, tout d'un coup, se mettent à marcher aussi vite vers la mort. Ça, c'est une question extraordinaire, formidable, parce que si on y répond, on répond à une grande question sur beaucoup de maladies neurodégénératives. Je mets à part la sclérose en plaques, parce qu'elle est inflammatoire. Dans les formes très évoluées, elle peut après évoluer comme maladie. Mais au début, c'est très inflammatoire. Mais il y a le Parkinson, et il y a tous les Parkinson variantes, la sclérose latérale amyotrophique et une foule d'autres maladies qui nous enseignent, comme l'Alzheimer, les démences frontotemporales, la dégénérescence cortico-basale, enfin, je peux vous dire, on en a que. Une cellule souffre et à partir d'un certain degré de souffrance, elle marche vers la mort. Mais c'est intéressant quand même à dire parce que Alzheimer, c'est une cause. Ce sont des dépôts de substances amyotrophiques. On sait bien ce que c'est maintenant. Hein. Bon. La dégénérescence cortico-basale, une autre maladie, bon, c'est autre chose. C'est un autre type de protéine. Ça commence par faire souffrir la cellule. Ça la pilonne. Le Parkinson, c'est une autre substance qui l'a fait souffrir dans d'autres régions du cerveau. Voilà. C'est de la synucléine, bon, peu importe. La cellule souffre. Acte 1, elle souffre. Et à partir d'un certain degré de souffrance, la cellule sombre en apoptose. Qu'est-ce que c'est l'apoptose ? La cellule se donne un signal de mort, elle se suicide. Donc, dans les recherches aujourd'hui qui sont faites, vous avez deux types de recherches. Premièrement, les recherches qui vont travailler sur la cause. Donc on va dire, tiens, essayons de travailler sur la cause de l'Alzheimer. Bon, par exemple, dans l'Alzheimer, il y a la substance amyloïde, substance qui empoisonne les neurones, qui rentre dedans, qui les surcharge, qui les fait souffrir. Alors, c'est le vaccin. Voilà, le vaccin pour détruire la substance amyloïde. Bon, vous savez que le vaccin est aujourd'hui en grande recherche. Nous avons un protocole à Poitiers, donc un protocole qui est un protocole international. Bon, et une cause possible. Les anticholinestérasiques, hein, que vous connaissez, la Ricep, l'Exelon, le Réminil, c'est la cause. Deuxièmement, j'ai des cellules qui souffrent. Oui, elles souffrent. Mais elles souffrent et elles sont vivantes quand même. Deuxième type de recherche, c'est retarder l'apoptose. Éviter que la cellule ne donne trop vite un signal de mort. Parce qu'elle marche à pas accélérer, à partir d'un degré de souffrance. Il y a des mécanismes qui font qu'elle fabrique des substances, la cellule, qui favorise la mort et qu'elle inhibe ce qui la prolongerait. Et donc, c'est toutes les substances qu'on appelle anti-apoptotiques. Et ça, c'est une recherche formidable, parce que cette recherche-là, ce n'est pas la cause, bien sûr, mais on s'en fiche de la cause. Le Parkinson, on le soigne, on n'a pas, on ne s'est pas traité encore sa cause. On sait que depuis 5-6 ans, que c'est la synucléine qui se dépose. Mais la L-DOPA, c'est 1970. Bon, donc, il ne faut pas croire que c'est en connaissant la cause qu'on sait traiter. Vous savez, la médecine, ce n'est pas comme les autres scientifiques. En médecine, ce qu'on veut d'abord, c'est pouvoir guérir les malades et les améliorer. La cause, ça, c'est des sciences fondamentales. Et on peut tout savoir sur la cause et rien savoir faire sur la maladie. Et ces substances anti-apoptotiques, elles pourront marcher dans l'Alzheimer, le Parkinson, peut-être la sclérose latérale amyotrophique. On a déjà un petit exemple. Dans l'Alzheimer, il y en a un qui est à l'AMM, c'est l'Ebixa. L'Ebixa retarde la mort. Et dans les équipes de recherche, bon, par exemple, dans l'équipe de biologistes qui travaille à Poitiers, à l'université, au Grévic, le groupe de recherche sur le vieillissement cérébral, travaille sur des substances anti-apoptotiques. C'est le choix de recherche qui est fait. Donc, il est très important de bien distinguer ces deux points, parce que, évidemment, toutes les recherches s'articulent, mais les équipes doivent choisir. Vous voyez que vous ne travaillez pas 50 voies de recherche en même temps. Extrêmement compliqué. Et donc, effectivement, il y a des différences importantes avec le Parkinson, l'Alzheimer, qui n'ont rien à voir. Sauf que, simplement, dans ce mécanisme terminal, ce qui peut être utile à l'Alzheimer peut être utile au Parkinson, des fois, ou l'inverse. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que souvent, on croit que une cellule, ça meurt comme si on tapait dessus avec un marteau, quoi. Alors, on va arrêter le marteau, vous savez. Mais non, ça ne suffit pas. La cellule meurt de manière programmée. Ça, c'est un élément extrêmement important.
Si vous permettez, moi j'aimerais revenir sur la communication avec le malade. On voit, vous avez évoqué la perte de la notion du temps, hein, enfin, puis monsieur l'intervenant également, monsieur Vernon, j'ai oublié son nom, également, perd la notion du temps. Alors, ma question, c'est comment on maintient une bonne relation avec le patient, comment l'entourage maintient une bonne relation avec le patient, quand au fil de la conversation, on voit ces notions du temps complètement perturbées. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il est préférable de laisser faire le discours ou de recadrer un peu le discours pour la ramener au temps d'aujourd'hui à des notions plus concrètes ? Est-ce que contrarier la personne pour lui dire non, c'était pas comme ça, rappelle-toi, c'était pas comme ça, ça a plus de chances d'améliorer la relation et la communication ou rentrer dans le même discours que l'intéressé, que le patient.
Oui, bon, j'ai pas de recette et de conviction formelle, mais ce que je crois pouvoir dire, c'est que plus on se rapproche d'un fonctionnement normal, mieux c'est. C'est-à-dire, bon, si quelqu'un déraille, mais comme ça qu'on connaît, quoi, je veux dire, sans Alzheimer, on lui dit, mais tu crois vraiment que ça s'est passé comme ça ? Ça, c'est possible. S'il continue dans son chemin, il faut le laisser aller, surtout s'il est bien. Voilà ce que je dirais. Je dis qu'effectivement, surtout avec le processus d'oubli du malade, le remettre sans cesse dans un chemin, c'est une perte de temps. Et puis, je crois aussi que ça peut être une frustration s'il perçoit une autorité un peu abusive, si vous voulez, ou une réprimande, etc. Bon. Donc je crois que le faire douter, ça oui, comme on peut le faire, tu crois vraiment ? Oui, tu me dis, ça va. Et si le malade le maintient fermement, que voulez-vous ? Quand vous avez des Alzheimer qui ont ce qu'on appelle une eknésie, c'est-à-dire qu'ils vivent du passé comme s'il était présent. Eh bien, c'est vrai qu'on se rend compte que essayer de les convaincre en disant « Mais non, tu sais bien, tu ne vas plus à l'usine, etc. » Ça ne sert à rien. Mais tu crois que tu vas aller à l'usine, vraiment ? Ah oui. Bon, voilà, bon, ben, très bien. Voilà. De même, vous savez, dans quelque chose qui fait beaucoup souffrir les plus proches, qui est le cap gras, c'est quand le malade dit à son épouse, qui pourtant est là près de lui tout le temps, ou dit à son mari, qui pourtant, l'inverse, est là près de lui tout le temps, mais tu n'es pas Germaine, tu es Josette. Bon, et Josette étant une sœur ou une cousine, etc. Et souvent, les témoignages qu'on a, c'est que quelqu'un qui se dévoue, entre guillemets, et qui dit, il reconnaît apparemment les autres, et moi qui suis à côté, il ne me reconnaît pas. Alors, ça s'appelle le syndrome de cap gras, un délire d'identité. On voit bien que essayer de persuader le malade qu'on n'est pas Pierre, mais qu'on est bien Julien, ça ne sert absolument à rien. Alors, bon, on peut expliquer pourquoi. C'est que quand on reconnaît quelqu'un, le cerveau le fait par la mise en cohérence de deux processus. Bon. Le premier, vous devez reconnaître le visage en fonction de ses traits, de ses caractères, etc. Bon. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'en même temps, le cerveau lance un déclic qu'on appelle le sentiment de familiarité. Et si le sentiment de familiarité manque, le malade, la personne, a du mal à dire que c'est vraiment lui. Et finalement, on s'aperçoit que ce sentiment de familiarité, effectivement, il est d'autant plus important que la personne est plus proche. Et que d'abord, on doit dire à cette femme qui souffre de ne pas être reconnue, en fait, il vous hyper reconnaît. Et comme il vous reconnaît très bien, mais voilà, il lui manque le déclic de familiarité. Mais d'ailleurs, Mais d'ailleurs, il dit que c'est un sosie. Il vous appelle Josette, mais Josette, c'est votre sœur. Et il dit que vous vous ressemblez, etc. etc. Donc, je crois, si vous voulez, que le premier point, hein, qui est extrêmement important, c'est là d'abord de comprendre un peu le mécanisme. Et puis après, plutôt que contrarier le malade, eh bien, on sort par une porte et on rentre par une autre. On a un angle d'éclairage différent et la reconnaissance revient. Je crois que c'est cela qui est productif. Il n'est pas dans la contradiction. Le malade a une évidence, il lui manque un déclic. Eh bien, on sort, on revient, ou on allume une lumière. Quand c'est un peu sombre, on peut changer les conditions d'éclairage et on constate que tout à coup, la reconnaissance revient. Voilà. C'est pour ça que je crois que la contradiction du malade ne paraît pas une bonne chose. Sinon, sauf si elle se limite à une interrogation qu'on peut avoir de manière habituelle dans une relation. Voilà ce que je dirais. Oui. Mais bon, après, on peut avoir d'autres opinions. Enfin, je verrai plutôt les choses comme ça, parce qu'on n'est pas dans la sphère du rationnel contre rationnel. Là.
Jacqueline Dermilly, dans son dernier livre, dit atteinte par le grand âge, puisqu'elle a plus de 90 ans, qu'elle est complètement aveugle, qu'elle est sourde, donc plus de relations sociales. Mais qu'heureusement, elle a, par exemple, elle donne un exemple, elle sent une rose, et aussitôt, elle a un afflux de souvenirs qui lui viennent et qui fait qu'elle se remet en lien, si on peut dire, avec le monde des humains. Est-ce que ça pourrait nous consoler, nous, qui avons eu l'Alzheimer? Les malades d'Alzheimer ont, le philosophe le disait, une vie intérieure. Oui, mais est-ce que cette vie intérieure peut leur suffire? Pour je sais que c'est difficile à savoir. Ça.
Bon, qu'il y ait une vie intérieure, c'est clair. On voit très bien comment Jean-Pierre Vernant, après en avoir douté, l'affirme, hein, puisqu'il dit c'est une mort, et puis non, elle me reconnaît et part de couches biologiques profondes. Et de toute façon, sur un plan, j'allais dire, neurologique, ceci se... est tout à fait conforté par ce qu'on sait sur la manière dont le cerveau procède pour évoquer, par exemple, on vous montre une tasse de thé avec un peu de fumée, une soucoupe... sucre à côté, voilà. Pendant longtemps, on croyait, on disait c'est une tasse de thé. On peut même ajouter chaud, s'il y a de la fumée. Quoi. Une tasse de thé chaud. Quoi. Dans une belle tasse en porcelaine de Limoges, de Chine, enfin, je ne sais pas ce qu'on veut. Bon, voilà. Bernardo, si on veut. Voilà. On dit voilà. Et pendant longtemps, on avait une vision étrange. On disait, dans le cerveau, on a des petites cases, vous savez, comme bibliothèque. Et il y a, là, il y a l'image que j'ai des tasses, des tables, des. Bon, le cerveau. Alors, c'était très simpliste, hein, mais c'était évidemment l'idée la plus simple, quoi. Le cerveau est une immense bibliothèque. Et puis, on s'est aperçu, à travers des travaux que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui sont tout à fait passionnants, qui ont commencé à l'enfance, etc. Au fond, si nous sommes tous ici capables de reconnaître une tasse de café ou une tasse de thé sur un tableau. Bon, l'histoire qui nous permet de dire ça est tout à fait différente. Et que quand on dit ce mot, quand on nomme et qu'on voit, on active un grand nombre de circuits cérébraux, parce que pour apprendre ça, c'est d'abord une tasse, puis on l'a touchée. Un jour, elle était fraîche, un jour, elle était chaude, un jour, on en a cassé une, et puis il y a le sucre à côté, et puis il y a l'odeur, et puis il y a telle odeur, et puis il y a l'endroit, on l'a pris avec tangerine, etc., ou on l'a pris... Hein, bon. Et que cet ensemble-là, ça fait comme une toile d'araignée, si vous voulez, qui va vers un centre. Et ça fait vibrer des tas de zones du cerveau, des souvenirs, des sensations, etc. Voilà pourquoi, quand on est aveugle et qu'on rentre par une seule entrée, la seule qui persiste, ou même l'évocation intérieure, tiens, une cuillère qui teinte sur une tasse. Eh bien, c'est comme une toile d'araignée où vous allez... Il y en a une qui va bouger, puis on va voir toute la toile qui peut s'ébranler comme ça, et des souvenirs qui peuvent revenir. Et puis, on passe du bruit à la tasse, et puis peut-être telle tasse avec des petites fleurs roses, etc. Voilà. Donc, ce que vous dites, c'est exact. Ça montre bien, ça valide le fait qu'il y a une vie intérieure qui persiste. Alors, effectivement, plus la maladie évolue, plus cette vie intérieure, j'oserais pas dire qu'elle s'appauvrit, mais je dirais plutôt qu'elle... va vers ce qu'il y a de plus archaïque chez l'être humain. Hein, ce qui a débuté en premier. Mais ce qu'il y a de plus archaïque chez l'être humain, c'est quoi? C'est le besoin, la satisfaction, le plaisir vague. Vous voyez ces choses-là? Le bien-être, le mal-être, ces besoins biologiques fondamentaux. Or, ils sont très importants pour l'équilibre. Vous savez, si on était tous là avec une faim énorme, une soif énorme, on ne serait pas bien, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas rester ensemble. Vous voyez, il faut que ces besoins-là soient satisfaits. Et donc, ce sont des besoins qu'il ne faut pas mépriser, parce qu'ils conditionnent la qualité de vie. Hein, ce qui reste de vie est toujours coextensif à ces sensations initiale, primaire de l'humanité et même du vivant. Donc oui, effectivement, il y a une vie, mais ce n'est pas une vie qui a évidemment toutes les harmoniques affectives, émotionnelles, cognitives que peut avoir une vie accomplie. Il faut se contenter, mais ce contentement-là est inséparable de l'humanité en tant que vivant. Hein, voilà. Et donc, il faut veiller à le maintenir. Le confort du malade a du sens. Hein, voilà. Et le confort basique. Voilà.
Comment évolue la maladie d'une façon générale? Est-ce que c'est une pente douce ou est-ce qu'il y a des paliers très sérieux?
Oui, vous savez, c'est très difficile. On ne s'aperçoit jamais bien d'une pente. Ce qu'on voit, c'est les étapes. Hein. C'est les étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une dégradation supplémentaire. Qu'il y a des, voilà, je crois que c'est comme ça. Ceci est variable d'un malade à l'autre. Il y a une moyenne de, mettons, 8 ans, mais on s'aperçoit que chez certains, ce qui est parcouru en 5 ans l'est en 15 ans chez d'autres. On peut pas... Il n'y a pas de mécanique évolutive. Et on le vit plus, effectivement, en termes d'étapes, en termes de marche, hein, que l'on descend. C'est plutôt comme ça. Alors, il n'y a pas de perte de la motricité pendant longtemps. Il faut attendre vraiment une des formes très évoluées pour perdre totalement l'équilibre, que les membres se raidissent, qu'on peut avoir des secousses, de la raideur. Oui.
Mais est-ce qu'en jouant sur la motricité, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas, enfin, idéalement, je ne sais pas, influer, ou je ne dirais pas retarder, mais enfin rendre l'évolution de la maladie
Si, mais simplement parce que la motricité permet la relation, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Pas en elle-même.
Non.
Parce que la maladie, on ne sait pas pourquoi, elle ne touche pas les zones motrices. Enfin, elle la touche très, très tardivement, et les zones sensorielles. Bon. Et donc, effectivement, elle finira par être atteinte un jour. Mais comme elle est préservée, elle permet aux malades de marcher pendant longtemps, de sortir, d'exister. Quoi. Voilà, c'est ça l'intérêt d'un prothésiste, c'est de laisser continuer le monde entrer dans le malade. Voilà.
Bien, si, peut-être une dernière question.
Juste un petit mot sur l'efficacité de Aricept et Bixa, les deux produits que vous venez de citer. Est-ce que il y a des travaux qui montrent que c'est vraiment efficace? Alors, si j'ai bien compris, l'un, c'est plutôt pour la première,
tout à fait,
ce
madame,
que vous nous avez expliqué, et l'autre, pour...
voilà.
En direction de l'apoptose, voilà. Ça serait plutôt...
Voilà pourquoi on n'associe jamais Aricept et Exelon, par exemple. Par contre, vous pouvez associer Ebixa avec un des trois autres. Voilà, mais dans... Bon, plutôt les formes évoluées, mais on ne sait pas très bien. Vous me posez une question difficile. Hein. Vous ne devriez pas poser des questions difficiles. Vous savez... Les médicaments anticholinestérasiques ont été inventés sur la base d'un raisonnement biologique. C'est que dans certaines régions du cerveau, il manque de l'acétylcholine. Voilà. Dans l'Alzheimer. Et il y avait un vieux rêve. Ce rêve, il a été initié par la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, il manquait de la dopamine. Et on a donné de la dopa et les malades se sont levés et ont marché alors qu'ils étaient coincés. Alors, il manque l'acétylcholine. L'acétylcholine est le neuromédiateur de la mémoire. On va donner des produits pour garder l'acétylcholine et hop, on va tout changer. Sauf que la mémoire, c'est plus compliqué que la motricité. Et voilà. Et ça, c'est comme ça. Alors, le raisonnement était bon. Puisqu'on maintient dans le cerveau des substances qui sont en déflation, hein, qui sont vraiment en faillite. Alors maintenant, comment on prouve que ça marche? Quand ces produits ont été expérimentés, ils ont été expérimentés contre placebo. Voilà. Bon, nous, à Poitiers, on a vécu, c'est vrai, une aventure qu'on a trouvée exaltante, même si après, il faut... revenir sur Terre avec l'un des trois grands, puisque comme on l'a eu pratiquement en phase 2, on a été dans un essai international qui nous a permis d'avoir des malades traités 10 ans avant qu'ils soient commercialisés. Parce que c'est ça, hein, le temps qui s'écoule entre la conception du produit et l'arrivée. Et que là, c'est vrai que vous êtes tout excité, vous comprenez, parce que vous dites, je vais faire quelque chose, c'est pas possible. Bon, voilà. Mais vous ne savez pas si vous donnez le médicament ou pas. Donc vous avez des malades. Et ces malades, sur quoi ça a été jugé sur un plan international? Ça a été jugé sur des tests. D'abord, et en particulier le MMS. Vous connaissez le mini mental state. Alors, cigare, fleur porte, répétez, cigare, où est-ce que vous êtes, à quel étage, à quel machin. Bon, vous voyez. Bon. Alors. Le maximum, c'est 30. À partir de 20, 23, c'est vraiment le seuil, paraît-il, de la démence, d'après ce que disent les gens qui connaissent ça. Et puis, on dit, si quelqu'un a 22, il est mieux que celui qui a 18. Bon, c'est vrai que c'est ce que nos maîtres nous ont appris, et nos maîtres étaient intelligents, sauf que nous étions normaux. Et que là, on a affaire à des malades. Alors, évidemment, c'est mieux. Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Bon. Mais si c'est mieux, c'est que ça fait de l'effet. C'est comme le rugby. Est-ce que je transforme l'essai en but? Je ne sais pas. Mais il y a un essai. Donc, c'est vrai qu'il on mobilise quelque chose. Et après, il a été utilisé des questionnaires très complexes sur la vie du sujet. Hein, bon, est-ce qu'il fait ceci, est-ce qu'il fait cela, est-ce qu'il fait ceci, est-ce qu'il... Bon. Et quand vous avez comme ça 40 ou 50 questions, eh bien c'est vrai que si le groupe qui est traité s'améliore et pas le groupe sur placebo, et si le groupe qui est traité perd moins que le groupe sur placebo, vous dites que le produit est actif. Et donc, il est commercialisé. Alors, quand on a eu le produit, sur deux ou trois personnes, sur la vingtaine qu'on avait mis dans l'essai, parce qu'un essai, c'est très, très lourd à mettre en œuvre. Bon, 20 personnes, c'est énorme, parce qu'il faut beaucoup les suivre. Quand les médicaments sont nouveaux, il faut tout surveiller, on a peur que ça fasse des effets toxiques. Enfin, c'est pas... Sur deux ou trois, on pariait que c'était le médicament. Parce qu'on se fait des... On se dit, ah, c'est pas possible, ils vont un peu mieux, les autres. Bon. Voilà. Donc, sur cette base-là, oui, ces produits ont une action. Maintenant, quand on prend un malade et qu'on lui met le produit, on ne sait pas comment il aurait évolué, on ne sait pas. Hein ? Et la famille, ben, elle ne sait pas non plus. Et l'équivoque, c'est qu'on va croire qu'on donne le médicament et que le malade va récupérer, vous voyez. Et là, c'est ça la supercherie, c'est ça la tromperie. Enfin, là, c'est pas une vraie tromperie, mais c'est ça l'équivoque. Et moi, quand les laboratoires me disent, est-ce que vous préférez... ils passent leur temps à essayer de dire, est-ce que l'exélon, c'est mieux que le réminil, c'est mieux que la ricepte? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Quand on soigne quelqu'un, on ne sait pas. On ne fait pas de miracle. Ça, c'est sûr. Mais il est probable, sur la base d'études statistiques, que la dépendance est épidémiologiquement sur des groupes de malades par rapport à des placebos retardés de 8 mois, 12 mois, 15 mois. Voilà. Alors, c'est à la fois dérisoire, mais c'est néanmoins encourageant, puisqu'on se dit, ces médicaments, ils ouvrent une voie. Mais c'est vrai que si on avait à résumer, c'est quand même décevant. Quand on soigne une méningite tuberculeuse, on guérit le gamin, quoi. C'est pas une moitié de tuberculose qu'il y a. Il est guéri. Et là, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui, dans la maladie d'Alzheimer, est aujourd'hui très frustrant. Parce que on n'est pas à même, quand on découvre la maladie chez l'un des nôtres, d'apprécier que le traitement fait vraiment quelque chose. Puisque on vous dit, ça retarde la dépendance de 18 mois. Oui, mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça va vous faire? Oui, vous voyez très bien que vous allez y aller et vous n'êtes pas en état de comparaison. Et donc, vous vous dites, il prend des médicaments, j'espère que ça lui fait quelque chose, mais moi, je ne vois pas, je vois pas grand-chose. Voilà. Donc, ces médicaments sont à la fois un encouragement et une déception. Alors, on voit sortir dans la presse scientifique, c'est un peu relayé aussi par certains médias, d'ailleurs à juste titre, qui est un raisonnement médico-économique. Et là, on est dans un autre ordre de valeur. On dit, compte tenu du prix que vaut la ricepte, l'exélon ou le réminil, est-ce que l'amélioration est justifiée par le coût? Alors là, comment voulez-vous répondre à cette question? Bien sûr, c'est très difficile, parce que dans une société... qui évidemment est en situation difficile, avec des coûts qui sont énormes, il faut bien l'avouer, c'est de dire ce que je gagne, est-ce que ça vaut ça? On compare la qualité de vie et de l'argent. Donc, si vous voulez, d'emblée, alors évidemment, vous avez aujourd'hui des discours de ce type qui, effectivement, tendent à. rendre encore les comportements plus incertains. Et puis, au bout du compte, c'est vrai que nous sommes dans un système qui font que les compagnies pharmaceutiques vivent de ces produits et que ces produits sont des moteurs de l'industrie, parmi d'autres, des moteurs économiques, ce sont des sources... Voilà. Et le monde est fait comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et là, il y a donc une très, très grande difficulté, ne serait-ce que pour fixer le prix. Hein, qu'est-ce que c'est que le prix d'un médicament ? C'est comme le prix d'une œuvre d'art. Si vous n'avez pas de concurrent, ce n'est pas le prix d'achat plus les frais plus le bénéfice. C'est le prix qu'on peut négocier. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que on dirait que si on les payait moins cher, on les accepterait peut-être plus facilement. Mais qu'en même temps, ils ont eu un bénéfice. Quand on voit ce qui se faisait avant, c'est que quand on fait des essais thérapeutiques, quand la recherche est tendue, comme ça, qu'il y a une préoccupation, on s'occupe mieux des malades. Vous voyez ? Parce qu'on porte plus attention à eux. C'est pour ça qu'il y a un effet placebo. Même dans l'Alzheimer, il est moins fort que l'effet réel, enfin, que l'effet du produit réel. Mais si on n'avait pas tout ce moteur-là, on risquerait de moins s'intéresser aux malades. Et je crois que c'est la grande consolation. C'est qu'il profite d'un supplément d'attention, je crois. Et que depuis qu'il y a tous ces médicaments, bon, aujourd'hui, il y en a près de 80 d'expérimentés. Ah, oui, oui, oui. À toutes les étapes de là, c'est une effervescence. Bon, nous, on doit refuser des essais thérapeutiques, parce que d'abord, c'est un travail gigantesque, donc on en a quelques-uns, bien sûr, mais on croule sous les demandes des firmes, parce qu'il y a vraiment un gros élan de recherche. Ça. Bon, donc, espérons, quoi, espérons.
Bien, on peut peut-être rester sur ce terme d'espérance et vous remercier, Monsieur Gilles, de cette conversation intimiste à bâton rompu autour de Jean-Pierre Vernant et d'Alzheimer. Signaler peut-être aux personnes ici que demain, ceux qui souhaiteraient continuer cette réflexion, à la salle de la Une à Saint-Benoît, il y a une journée de réflexion autour du troisième plan Alzheimer avec la participation du professeur Gilles, du professeur Pacalin, du professeur Ménard qui a initié le troisième plan Alzheimer 2008-2012. Et puis une présentation un peu de tout ce qui se fait dans la région en termes de prise en soins, de prise en charge. Voilà, donc les personnes qui seraient intéressées demain à 9h à la salle de la Une à Saint-Benoît, une journée de réflexion sur la prise en soin de la maladie d'Alzheimer dans la région Poitou-Charentes. Donc encore merci à vous, Monsieur Gilles, et puis merci à vous tous de votre intérêt et de vos questions. Et pour ceux qui souhaitent rencontrer l'association, on est à votre disposition. Vous avez des petits opuscules qui présentent l'association. Donc, on est à votre disposition si vous souhaitez nous cheminer avec nous. Bonne soirée à tous.